Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. On pourrait commencer en énumérant des faits. Dire que des milliers de migrants essaient tous les ans de rejoindre la France par la mer, mais aussi de plus en plus par la montagne. Dire que la route des Alpes est particulièrement empruntée par des jeunes du continent africain et beaucoup de Guinée. Dire qu'il faut des heures pour faire quelques kilomètres la nuit en se cachant. Quand on marche dans la neige, sans équipement adapté, chaussures, blousons, pulls, nourriture, au point de risquer à tout moment de mourir de froid, de faim ou d'être arrêté par les policiers. Mais derrière ces faits, il y a des personnes, des enfants, des femmes, des hommes qui ont un nom, un visage, un passé et un avenir. Les rencontrer, leur parler, les suivre, forcément, c'est différent des statistiques désincarnées. Bonjour Raphaël Kraft.
Bonjour.
C'est justement en allant dans les Alpes, près de Briançon, à la frontière franco-italienne, dans le village de Névache, exercer votre métier de journaliste que vous vous êtes, lors d'une maraude nocturne dans la montagne, retrouvé face à quatre jeunes mineurs. Ça aussi, c'est une précision importante car cela change aussi leurs droits et nous en reparlerons. Et que cette rencontre a nourri non seulement un grand reportage diffusé sur France Culture en 2017, mais a suscité aussi un voyage en Guinée. Deux expériences qui sont au cœur du livre que vous venez de publier sous le titre « Les enfants de la Clarée » aux éditions Marchiali. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, un mot pour que vous nous expliquiez aussi pourquoi aller sur la trace des migrants dans les Alpes était important pour vous, sachant que vous êtes aussi l'auteur d'un livre intitulé « Passeurs », où vous racontiez comment vous aviez fait passer clandestinement deux réfugiés soudanais de l'Italie à la France. Pourquoi ce sujet vous tient-il autant à cœur et à corps ?
Pour plusieurs raisons. Depuis le plus jeune âge, j'ai beaucoup voyagé. J'ai fait mon premier voyage, j'avais peut-être 15 ou 16 ans, pour aller en Angleterre en stop pour tenter de conquérir une Anglaise, sans succès. Ensuite, j'ai traversé l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord à vélo. Et c'est à partir de ce moment-là, véritablement, que je me suis rendu compte que la liberté de circulation était quelque chose d'important et était pour moi un privilège, puisque j'étais et je suis toujours détenteur d'un passeport de couleur bordeaux, hein, les passeports de l'Union européenne, et qu'avec ce sauf-conduit, je peux aller pratiquement où je veux autour de la planète, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Après cela, pendant une bonne dizaine d'années, j'ai couvert de nombreuses crises, de nombreux conflits. J'ai été correspondant dans la bande de Gaza, j'ai couvert le conflit irakien, les Balkans, etc. Et donc j'ai été confronté très souvent à la question de l'exil, de l'exode, notamment en Libye, lors de la révolution libyenne, où je me trouvais là-bas pour une radio américaine. Et donc la question des migrations m'a toujours intéressé, jusqu'au jour où, à partir de 2014-2015, la guerre est finalement venue au coin de ma rue, puisque j'habite à Barbès, à la Goutte d'Or précisément, et que j'avais à côté de chez moi un camp dit de réfugiés sous le pont du métro La Chapelle, et que j'étais dans cette situation où je n'étais plus seulement le témoin, mais j'étais également un citoyen, et que la frontière entre le journalisme et l'engagement solidaire, je ne sais pas quel adjectif utiliser, se retrouvait mêlée. Hein. C'est compliqué de faire une interview de quelqu'un qui est issu de la même classe sociale que vous, et puis que vous le laissez là. Et rentrer chez vous à 300 mètres pour retrouver un foyer, un chauffage, une douche, etc. Donc voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Et depuis donc 2014-2015, si j'ai couvert les questions migratoires avant, depuis cette date, c'est principalement sur ces questions que je travaille, que ce soit en Afrique, en Méditerranée centrale, en Italie, dans les Alpes, à la frontière pyrénéenne, à Calais.
C'est comme ça que vous êtes devenu passeur, dans tous les sens du terme, passeur pour aider les gens à passer les frontières peut-être, et passeur parce que c'est aussi la noblesse de ce métier de journaliste que de passer des informations d'une personne à l'autre. Donc en novembre 2017, Raphaël Kraft, vous arrivez à Névache parce qu'il y a un nouveau chemin de migration. Et là, vous rencontrez Bernard Ligère, qui à 81 ans est un peu à la tête d'un réseau de solidarité composé de 2 dizaines de personnes. Réseau qui, un peu comme la Seconde Guerre mondiale, par le bénévolat et dans la clandestinité, organise le sauvetage en montagne des migrants. Ça vous a étonné de voir à quel point autant de monde se sentait concerné par l'urgence de la situation ?
Étonné, non, mais ça m'a conforté dans cette idée selon laquelle la ligne de fracture sur la volonté ou non d'accueillir les réfugiés n'était pas une ligne de fracture classique, droite-gauche. Elle regroupe des personnes d'horizons extrêmement variés et de sensibilités politiques également extrêmement variées. La particularité de Névache, ce qui n'est pas le cas de Briançon, c'est qu'effectivement on est avec des personnes qui sont confrontées journellement à cette question et que les trajectoires politiques importent peu. Ce sont des montagnards, donc ils ont un rapport à la montagne et aux montagnards et à la vie dans la montagne qui est un peu comme celle des marins, où la priorité, c'est d'abord de sauver des vies dans un environnement hostile, et notamment en hiver. Et donc, effectivement, Bernard Ligère n'est pas forcément l'archétype du Cédric Héroux de la vallée de la Roya. Pour les auditeurs, Cédric Héroux, c'est une personne qui est très impliquée dans l'aide aux migrants à la frontière franco-italienne, mais plutôt dans le sud, dans les Alpes-Maritimes.
Et qui a été condamné pour cela, d'ailleurs.
Oui, et Bernard Ligère, enfin feu Bernard Ligère, puisqu'il est décédé en août 2018, c'est un ancien officier d'active qui a été le lieutenant le plus décoré de la guerre d'Algérie. C'est pas forcément, on le mettrait pas forcément dans la case du solidaire, comme on les appelle. Bernard Ligère, c'est un homme qui a acheté un chalet dans la vallée de la Clarée, où se situe Névache, donc au début des années 70, pour y venir en vacances, pour finalement s'y installer définitivement à la fin des années 90, début des années 2000. Et c'est quelqu'un qui est confronté, comme la plupart des habitants de Névache, à des gens qui marchent dans la neige, en basket, la nuit, par des températures négatives. Et donc, sa sensibilité catholique, son sens du devoir, l'ont conduit à organiser effectivement un réseau de sauvetage dans le col de l'Échelle pour venir en aide. Alors ça s'est fait de façon extrêmement compartimentée. Il y a beaucoup de gens qui maraudent encore aujourd'hui, mais surtout dans le col de Montgenèvre, parce que la route a été un petit peu déviée. On emprunte beaucoup moins le col de l'Échelle parce qu'il est assez dangereux. Et il y a eu beaucoup d'informations qui a été données aux réfugiés sur la dangerosité de ce passage. Donc aujourd'hui, Névache est un petit peu moins active dans les maraudes, dans le soutien aux migrants, même s'ils descendent à Briançon pour aider au refuge solidaire. Et donc souvent les maraudeurs ne se connaissent pas, souvent Bernard ne connaît pas qui est en train de marauder dans le col tel soir, et ce sont des coups de fil échangés par des voix inconnues qui apprennent à se connaître sans se voir, puis finalement se rencontrer plusieurs semaines ou plusieurs mois après.
Mais en même temps, je fais une petite parenthèse de Raphaël Kraft, mettre au grand jour d'abord à la radio et puis dans ce livre leurs activités, leur identité, parce qu'en plus souvent ils ne veulent même pas rester anonymes. Est-ce que ça ne met pas en péril ce qu'ils font ?
Absolument pas, puisqu'il n'y a rien d'illégal dans ce qu'ils font. Ce sont pas des passeurs, ce sont des gens qui patrouillent dans la montagne pour venir en aide aux personnes en difficulté, comme le peloton de gendarmerie de haute montagne avec lequel ils entretiennent d'ailleurs de très bons rapports.
Donc vous rencontrez tous ces gens, vous les interviewez, et puis lors d'une maraude, vous êtes avec 2 hommes de la région et une consoeur journaliste. Vous marchez dans la neige, il fait nuit, votre micro est allumé. Et voici ce que vous avez enregistré, Raphaël Kraft.
Avec Alain, accompagnateur en montagne à la retraite, et Caroline, consoeur du journal suisse Le Temps, pour apprécier la situation de nuit au col de l'Échelle. On entend une branche craquer.
C'était là, je crois.
Ça peut être un chevreuil aussi.
Si, là, attends. Oh. Là. Là, là, là. Oui. Non, t'en fais pas.
Il y en a d'autres qui sont avec vous derrière.
Voilà. Quel âge avez-vous ?
Moi, j'ai mes 16 ans. parce que c'est le 10 octobre passé, j'ai fêté mon anniversaire 16 ans.
Et vous venez d'où?
Je viens de Guinée-Conakry, moi.
Vous êtes parti il y a combien de temps?
Au moment de 2015, je suis sorti avec mon oncle.
En 2015?
Oui, depuis le mois d'avril 2015.
Donc à l'âge de 14 ans, quoi?
Oui, oui.
Enfin, même pas 13 ans et demi.
J'étais conduit par quelqu'un, quoi. On est venu ensemble là, mais lui, je l'ai laissé à Libye.
Et vos camarades, ils ont quel âge? Vous avez quel âge? Moi, je suis journaliste. Hein.
Ok, moi, j'ai 16 ans comme ça, 16 ans.
Vous êtes de Guinée également?
Oui, oui, Guinée-Conakry.
Et vous?
Moi, j'ai 16 ans. Je suis sénégalais.
Oui, je suis guinéen.
D'accord. Quel âge avez-vous?
J'ai 17 ans.
D'accord.
Voilà un moment de radio et un moment de vie qui donne la chair de poule où, par hasard presque, vous tombez face à ces quatre mineurs. Comment est-ce que vous avez vécu cette scène, Raphaël Kraft?
Oui, oui, c'est émouvant parce qu'il fait très froid, parce que on s'y attend pas, parce que on l'a lu, on le sait. Ce serait, comment dire, quand on est journaliste, on est en quête du réel. On ne souhaite à personne de se retrouver transi de froid dans un bosquet, mais effectivement, avoir le son, avoir cette rencontre, c'est quelque chose d'assez fort et c'est quelque chose qui parle à l'auditeur et qui va peut-être lui faire prendre conscience de ce qui se passe à nos confins.
Et qui vous parle aussi à vous, parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, votre sujet prend une autre direction, peut-être que celle que vous aviez envisagée. Parce que là, en plus, en effet, des bénévoles d'un côté, des officiels de l'autre, là, vous avez des témoins que vous allez suivre, puisque ensuite, vous êtes arrêté par la police, séparés, ils vont être reconduits de l'autre côté de la frontière, côté Italie, à Bardonecchia, où vous leur demandez d'ailleurs de vous attendre pour qu'ils vous racontent leur version et aussi d'où ils viennent. Et j'ai l'impression que c'est là aussi que peut-être vous décidez d'aller en Guinée et que se met en place ce voyage en partenariat avec les élèves de Nevash. Racontez-nous, Raphaël Kraft.
Je me rends compte que dans cette vallée, il y a une école, qu'il y a une petite école telle qu'elle peuvent exister dans les régions reculées de France, hein, c'est-à-dire une classe unique. Là, en l'occurrence, il y en a deux, une maternelle et un primaire. Deux institutrices, dont une est à la fois directrice et institutrice. Et je sais que mon ami Alain de Valpo, qui est bien connu, je pense, des auditeurs d'RFI, a une association qui s'appelle Globe Reporter, une association d'éducation aux médias, dont le principe est de mettre à disposition un journaliste professionnel à plusieurs classes, du CP jusqu'à la terminale, et celui-ci est envoyé spécial dans un pays, et il est au service, pour ne pas dire aux ordres, de ces mini-rédactions que constituent chacune de ces classes, et les élèves, pendant près d'une année, travaillent ensemble sur la connaissance, l'exploration à distance d'un pays pour préparer des reportages qu'ils vont commander aux reporters qui partent. Et lorsque j'ai vu l'école de Nevash, je me suis dit, voilà des enfants qui voient quotidiennement des enfants originaires de Guinée, en majorité, passer par leur vallée. Souvent, leurs parents les accueillent. Pourquoi ne pas partir en Guinée pour les aider à comprendre les raisons qui font que des enfants de leur âge, un petit peu plus âgés quand même, tentent le passage. Et c'est ainsi qu'un an plus tard, jour pour jour, puisque le 11 novembre 2018, je me suis envolé pour Conakry, comme envoyé spécial de l'école de Nevash et de 14 autres classes à Paris, Salon de Provence, Saint-Dizier, La Réunion, etc.
Et donc nous partons en Guinée.
Paris
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI avec aujourd'hui Raphaël Kraft pour parler de son récit intitulé « Les enfants de la Clarée » aux éditions Marchiali. Une enquête sur les chemins de migration dans les Alpes où s'engagent de nombreux réfugiés du continent africain dont des mineurs guinéens, ce qui, on l'a dit, vous conduit, Raphaël Kraft, à partir en Guinée pour comprendre ce pays et peut-être aussi les motivations de ceux et celles qui partent en espérant un avenir meilleur en Europe. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus quand vous êtes arrivé sur place en Guinée ?
Je ne veux pas porter de jugement sur ce pays. Ce qui m'a frappé le plus, c'est que c'est d'abord un pays que j'aime, enfin que j'ai tout de suite aimé en arrivant. Après, effectivement, c'est un des pays de la planète qui a l'indice de développement humain parmi les plus bas. C'est un pays où le taux d'alphabétisation est parmi les plus bas. C'est un pays où le gouffre entre la classe dirigeante et la majorité de la population est béant. Donc c'est d'abord ça que je vois. C'est toute la vulgarité et toute l'horreur que constituent ces écarts de niveau de vie entre les nantis et le reste de la population.
Est-ce que c'est pour cela qu'une partie de la jeunesse veut fuir le pays, tandis qu'un notable vous dit aussi par ailleurs que les enfants guinéens sont des menteurs et des voleurs ?
Non, parce que lorsqu'on étudie les migrations, on constate que ce ne sont pas depuis les pays les plus pauvres que l'on part, parce que pour partir, il faut des moyens, il faut de l'argent. Pour ce qui est de la Guinée, il y a eu une émigration massive dans les années 70, au moment de la dictature de Sékou Touré, mais cette émigration s'est principalement dirigée vers les pays alentours, notamment le Sénégal ou la Gambie. Ce sont les plus riches qui ont pu se rendre en Europe, et notamment en France ou en Belgique, mais également sur la côte est des États-Unis. Non, les enfants, s'ils quittent la Guinée, il y a bien sûr la volonté d'un avenir meilleur, il y a bien sûr la volonté de tenter sa chance pour aller en Europe, mais la majorité d'entre eux ne vont pas jusqu'en Europe. La majorité d'entre eux voyagent dans des pays voisins, ils vont voir un oncle au Sénégal, en Gambie, voire au Mali, ou en Sierra Leone, ou que sais-je encore. C'est une minorité qui parvient jusqu'en Europe. Et les motivations de ce départ sont très souvent liées à des questions familiales, à des violences familiales, qui poussent ces enfants à fuguer davantage que d'envisager un parcours migratoire établi et réfléchi.
En tout cas, quand ils décident de partir, c'est là aussi que commence le chemin de croix, puisqu'ils passent par la Libye, où il y a un trafic d'humains terrible, puisque vous le racontez, Raphaël Kraft, les migrants sont arrêtés, mis en prison, affamés, torturés, contraints d'appeler leur famille pour être libérés contre une rançon et ensuite renvoyés chez eux jusqu'à ce qu'ils repartent. C'est ce qu'ils vous confient, ces enfants, c'est ce qu'on sait aussi, c'est documenté. Pourquoi est-ce que cette méthode libyenne n'est-elle pas condamnée par la communauté internationale ?
Je crois que parce que ça arrange tout le monde. C'est un peu simpliste de parler de méthode libyenne. Je veux dire, la Libye, c'est d'abord un État failli, donc il n'y a plus d'État. La Libye, ça a été une terre d'immigration pendant des décennies en Afrique. Hein. Je veux dire, et encore aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes issues d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique de l'Est qui travaillent en Libye. Parce que, historiquement, il y a toujours eu du travail pour les immigrés en Libye. Ensuite, c'est un pays, effectivement, qui, sous l'ère Kadhafi, a toujours joué de cette question de l'immigré. Et ça n'est pas très différent de la façon dont des pays comme la France ou l'Europe envisagent la question des immigrés à des fins électoralistes. Hein. Et c'est vrai aussi en Tunisie, et c'est vrai aussi en Algérie. Sauf qu'en Libye, effectivement, c'est un petit peu plus violent. Et que Kadhafi, selon l'humeur de sa population et selon les affaires qui lui traînent aux fesses, utilisait la population immigrée comme des boucs émissaires. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus d'État et qu'il y a cet héritage, et qu'il y a effectivement une grande violence, et que le migrant aujourd'hui, si on a de l'argent, il n'y a aucun problème hein, pour passer à travers la Libye, mais beaucoup de ces personnes qui vont en Libye aujourd'hui n'en ont pas, et c'est donc par l'extorsion, par la torture, par une forme d'esclavage, parce qu'on n'est pas dans une logique esclavagiste telle qu'elle a pu exister dans les économies de plantation au sud des États-Unis ou en Guadeloupe ou en Martinique, se retrouvent en tous les cas à faire du travail forcé et vivre des conditions extrêmement difficiles. Ensuite, Kadhafi a toujours dealé avec l'Europe sur la question de l'ouverture des vannes, de laisser passer les immigrés ou non, tout d'abord avec l'Italie, dans les années 2000, avec Berlusconi, bien sûr avec la France, et d'une façon plus générale aujourd'hui, depuis 2014-2015, avec l'Union européenne, qui aide la Libye à contenir effectivement ces migrants qui voudraient quitter cet enfer que constitue la Libye en finançant les gardes-côtes libyens, en les entraînant, et voilà.
Mais si je parlais du silence de la communauté internationale, c'était aussi pour souligner le fait que là, ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse et qui est le sujet de votre travail, Raphaël Kraft, c'est la question des mineurs. Parce que là, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit en France, le droit des mineurs qui normalement est prioritaire au droit des réfugiés n'est pas appliqué ni en Libye évidemment, ni en France. Et c'est un peu ce que disait donc le doyen du réseau de secours à Névache, Bernard Ligère, en 2017 à votre micro.
Les mineurs, là, ils ont tous les droits en matière de demande d'asile. Puisque les textes prévoient que même un mineur ayant passé clandestinement la frontière, ou etc., peut demander asile en France. Voilà. Hein. Donc tant qu'un mineur est dans une voiture ici, hein, il est illégal de le prendre et de le reconduire en Italie, comme ça s'est fait souvent. Hein. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas un changement de politique, je le répète, on demande l'application de la loi. C'est tout ce qu'on demande, et on le demande spécialement aux forces de l'ordre. On ne devrait pas faire obstacle au transfert de ces gens-là. Parce que ces gens-là, qui c'est pour nous, pour la plupart des gens? La plupart, ils n'est pas sur la route. Hein, ce sont des autostoppeurs qui cherchent à aller à Briançon. On n'a jamais demandé à un automobiliste de demander la carte d'identité d'un stoppeur, et on ne lui a jamais interdit de prendre un stoppeur parce qu'il est noir. Hein?
Voilà, au-delà de l'émotion d'entendre Bernard Ligère qui n'est plus, ce passage, cet extrait de votre grand reportage, Raphaël Kraft, est important parce qu'il souligne aussi l'aspect légal, la loi qui n'est donc pas respectée en ce qui concerne la plupart de ces mineurs qui traversent les Alpes.
Oui, et c'est d'autant plus ennuyeux, voire scandaleux, puisque la France est à l'initiative de la Convention des droits de l'enfant, la Convention de New York, qui a été signée, je crois, au début des années 80, je me souviens plus, qui stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant prévaut. Et en l'occurrence, la loi prévoit aussi que cette minorité est d'abord déclarative. C'est-à-dire que un individu qui aurait 19 ans et qui déclare à un policier français qu'il en a 17, eh bien, dans le doute, le policier français se voit contraint, ou obligé en tout cas, de présenter cet enfant à l'aide sociale à l'enfance, qui est une prérogative départementale en France. Cette aide sociale à l'enfance va ensuite confronter le mineur déclaré face à un juge, lequel juge va stipuler si oui ou non il est mineur. Sachant que les méthodes employées pour connaître la minorité des enfants sont extrêmement décriées, puisqu'il s'agit de tests osseux qui ont été mis en œuvre dans les années 50 sur des personnes blanches et issues d'un pays, en l'occurrence les États-Unis, et donc qui sont sujets à beaucoup de controverses aujourd'hui en France. Et il y a une propension à refuser la minorité des personnes auxquelles ces juges sont confrontés. Mais effectivement, lorsque des enfants se présentent à la police, le droit est de leur côté, de toute façon.
D'où l'importance de rappeler ces faits, et à la fois dans votre reportage et dans ce livre, Raphaël Kraft. Et à la fin de votre récit, on sent à quel point vous avez été marqué par cette expérience. Et quand est diffusé le reportage, vous êtes un peu en colère, ou peut-être déçu par le manque de retentissement de ces faits importants et de ces faits graves que vous restituez. Est-ce que c'est pour cela aussi peut-être, alors je ne sais pas quel impact vous attendiez exactement, mais est-ce que c'est aussi peut-être pour cela qu'aujourd'hui vous publiez ce livre qui à la fois reprend ce reportage, mais augmenté de cette expérience en Guinée et du suivi que vous avez avec certains migrants?
Alors effectivement, quand nous sommes arrêtés dans la nuit du 11 au 12 novembre 2017 par la police, on est sous le choc, on comprend pas comment des journalistes peuvent-ils être arrêtés dans l'exercice de leur métier. Mais lorsqu'on se fait arrêter, on est surtout interpellé par le sort qui va être réservé à ses enfants. Et le lendemain, lorsque je les retrouve à la gare de Bardonecchia, je les interviewe chacun à l'écart, afin de pouvoir recouper leur récit. Et je constate qu'ils ont été abandonnés dans la montagne à 1h du matin, sans eau, qu'on leur a pas donné à manger. Et je me dis que c'est scandaleux et que ça va forcément interpeller l'opinion publique. Et très naïvement, alors que toute la presse parle de notre arrestation, il y a une dépêche AFP, Reporters sans frontières fait un communiqué, je me dis, tiens, quand on va révéler cette histoire des mineurs abandonnés à la montagne, ça va forcément
secouer un peu.
Oui, et non, et en fait non.
D'où la publication de ce livre, 4 ans après, pour un peu raviver les mémoires?
Peut-être. J'avais envie de raconter cette histoire. Je crois que on parle aujourd'hui de plus en plus de Briançon, et c'est très bien. Il y a en ce moment des députés, et notamment des députés écologistes, qui se relaient au poste frontière de Montgenèvre pour alerter sur les infractions aux droits de la police française à l'endroit des réfugiés, et c'est très bien.
Et pas que cela, il y a aussi le nouveau maire de Briançon qui a déclaré qu'il allait ne pas renouveler le bail de cette ancienne caserne qui servait de refuge solidaire où sont passés plus de 10 000 migrants, et que les 350 bénévoles ont décidé de se porter contre, évidemment, cette décision. Donc la situation est quand même très dangereuse, enfin friable.
Oui, bien sûr. La question du CRS, le Centre de Refuge Solidaire situé à Briançon, est en suspens pour l'instant, puisqu'il va être fermé et que les bénévoles n'ont toujours pas, les différentes associations autour du dossier n'ont toujours pas trouvé d'autres locales pour pouvoir assurer cette mission qui devrait normalement être assurée par l'État français. Mais j'avais aussi envie de raconter cette histoire à Névache, parce qu'elle est assez méconnue, qu'on en a peu parlé. J'avais aussi envie de rendre hommage à Bernard Ligère et ses comparses, Jean-Gabriel Ravary, Bruno Jonard, qui sont des personnes pour lesquelles je me suis attaché. Ce sont des belles personnes. Et il me semblait intéressant de relier un village des Alpes avec des petits villages en Guinée.
Merci beaucoup, Raphaël Kraft.
Merci beaucoup.
Je rappelle le titre de ce récit, cette enquête absolument passionnante. Et plus que ça, cette vision du monde, de ce monde que nous vivons aujourd'hui. Les enfants de la Clarée, un livre qui a paru aux éditions Marcali.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Tous les cinémas du monde.
Sophie Torlotin.
Cette semaine, on enfile un